de passage dans l'épître aux Galates. Épître aux Galates. Chapitre 1er. Paul, apôtre, nom de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de la Galatie, grâce et paix à vous, de la part de Dieu le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu Père, pour qu'elle soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Au chapitre 2, verset 19. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au chapitre 5, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Verset 16. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire, puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. soyons pas désireux de une gloire en nous portant envie les uns les autres et en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Au chapitre 6, verset 7, ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Au verset du chapitre 6, au verset 14, mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Verset 17, désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Dans toute la parole, nous trouvons des quantités d'enseignements, d'exhortations, révélation. Et si nous prêtons attention aux lectures, si nous faisons nos lectures avec attention, nous pouvons voir que cette sainte parole, parlons du Nouveau Testament spécialement, car depuis le christianisme, la lumière a été donnée dans sa totalité, ce qui n'était pas vrai dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament connaissait les choses qu'en partie. Maintenant, on a toute la lumière. Et le fait marquant, comme nous l'avons dit cet après-midi, le fait marquant qui distingue l'ancienne alliance du christianisme, ce grand fait, c'est la descente du Saint-Esprit. Jamais nous ne nous arrêterons assez sur ce fait. C'est un fait. Depuis 20 siècles, le Saint-Esprit est venu. Il a été envoyé par le Père, par le Fils, et il est venu. Les trois sont dites dans l'évangile de Jean. Et encore une fois, nous voyons là la grandeur des trois personnes de la déité. Il est là. Il n'y est pas pour rien. Dieu ne fait pas une chose pour rien. Et la venue du Saint-Esprit n'est pas un fait qui pouvait passer inaperçu. Et c'est par son moyen que nous pouvons comprendre en particulier le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'autre clé que celle-là. Et nous ne craignons pas de faire quelques remarques très élémentaires très pratique parce qu'elle, notre vie est faite à bien des égards de détails, de choses et de faits pratiques. Le Saint-Esprit place devant nous les vérités et jamais d'une façon abstraite. Jamais pour qu'elles restent sous forme de notions, d'idées dont nous meublerions notre esprit. Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, la parole nous serait fermée. Par le Saint-Esprit, pour un croyant, cette parole lui vient ouverte. Non seulement il peut la comprendre plus ou moins suivant sa piété, mais mieux que cela, l'intelligence qui lui est donnée, la pensée de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit conduit le chrétien à utiliser cette connaissance dans la pratique. Un christianisme qui n'est pas traduit par des faits pratiques dans la vie d'un chrétien, eh bien, n'est pas le christianisme de Dieu. Il est impossible qu'une vérité divine reçue par l'esprit, il est impossible qu'elle n'ait pas des effets sur une âme, au fond d'un cœur, au fond d'une confiance. La parole de Dieu tout entière est un livre moral, d'un bout à l'autre. On nous dira qu'on y trouve de l'histoire, de la géographie, mais ce que Dieu dit qui pourrait avoir cette apparence est toujours en relation avec un dessein qu'il n'abandonne jamais de placer sa créature devant des faits moraux, car l'homme, essentiellement, est un être moral. Il est responsable en tant qu'être moral. Et il est la plus haute manière. L'affaire n'est pas mince en importance. C'est un sort éternel qu'il se joue. Tout homme qui naît, un enfant qui naît, est un être humain et il est entièrement à part de toutes les autres créatures. Il a en lui quelque chose qui le rend à même d'avoir des relations avec Dieu. Relations heureuses, et si elles n'ont pas cela, des relations d'un caractère affreux pour la personne en question. C'est l'un ou l'autre. J'ouvre une parenthèse, encore une fois, pour redire que la plus haute qualité de l'homme, c'est la confiance. C'est la confiance. La plus noble. Ce n'est pas l'intelligence au sens ordinaire du mot, pas du tout. C'est la confiance. C'est-à-dire ce que nous avons hérité de nos premiers parents qui, après la scène solennelle de la chute, subitement ont acquis cette connaissance du bien et du mal. C'est cela la confiance. Et tout homme maintenant est un descendant d'Adam et d'Ève déchu. Et en particulier, le Nouveau Testament revêt une importance particulièrement grande puisqu'il nous présente les activités divines en rapport avec ce désastre qui s'est produit au Jardin d'Éden. Satan a cru sur le moment qu'il avait remporté une victoire définitive. Ça n'est pas vrai. Mais n'empêche que cette désobéissance entraîner des conséquences d'une importance incalculable. C'est très solennel. Le monde est comme cela aujourd'hui. Quelles que soient ses apparences et ses succès extérieurs ou autres, nous ne condamnons personne. Et nous avertissons, nous pouvons avertir tout le monde. Et nous pourrions dire au monde entier qu'il est entièrement dans l'erreur. Nous avons le droit, le devoir, le cas de chez entièrement dans l'erreur. Et les manifestations les plus grossières, jusqu'à celles qui ont la plus noble et la plus belle apparence quant aux activités de l'homme, tout est fondu et confondu sous le même jugement de Dieu. Il n'y a pas un juste, non, pas même ça. Il ne s'agit pas dans l'Écriture de la considération des rapports des hommes entre eux. Ce n'est pas du tout cela. En tout cas, pas d'abord. Il s'agit dans l'Écriture, c'est ce que l'Écriture fait continuellement, elle parle de l'homme en le rapportant à lui-même. L'homme a affaire à Dieu, il n'y échappera pas. Plus tôt, plus tard, il n'y échappera pas. Voilà ce que les chrétiens authentiques peuvent dire, des fois qu'ils en ont l'occasion. Ils peuvent dire qu'ils détiennent la vérité parce qu'ils l'ont reçue par la foi. Non pas à dire qu'ils la détiennent, mais à montrer par notre façon de faire ou de juger les choses que nous n'emboîtons pas du tout le pas aux hommes, même aux hommes les plus excellents du monde. Pas du tout. Ce n'est pas de l'orgueil, cela. C'est la simple obéissance à celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le christianisme vécu est toujours pratique. Il se traduit toujours par des effets pratiques. Nous avons vu au commencement que nous avons été retirés du présent siècle moderne. Voilà. Retirés du présent siècle moderne. Évidemment, les braves gens du monde, n'est-ce pas, et les hommes intelligents et intègres trouvent que c'est trop dur des déclarations de ce genre-là. Retiré du présent siècle moderne. Du jour où un de ces personnages importants et supérieurs, du jour où il est touché par la lumière de Dieu, il dit c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde n'est pas un criminel, ni un homme de bas étage, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence, pas du tout. Pour la foi non plus, sans manquer de respect à qui que ce soit, nous n'avons pas de peine à honorer tous les hommes. Retirer du présent siècle mauvais, c'est une position négative, c'est par rapport au monde. Mais nous ne sommes pas nulle part, pour autant nous sommes quelque part. Nous avons retiré du présent siècle mauvais pour entrer dans des relations vivantes, réelles, avec Dieu lui-même, le Dieu que nul œil n'a vu ni ne peut voir, car nous ne verrons Dieu qu'en Christ, dans la gloire. Mais nous connaissons Dieu, nous pouvons bien le connaître sans l'avoir jamais vu, et nous n'éprouvons pas le besoin de le voir. Le Saint-Esprit ne produit pas ce besoin de voir. Et ce que le Saint-Esprit apporte à l'âme par la parole et par sa puissance, eh bien, anéantit cet état si profond de curiosité qui est dans le cœur de l'âme. L'homme est curieux, il est toujours curieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais satisfait. Jamais. Vous ne trouvez pas un homme qui soit satisfait. Au fond, il ne peut pas l'être. Mais passons. Voyons l'apôtre qui, après avoir la position des chrétiens dans la chambre, cela ne veut pas dire que nous avons à sortir du monde, mais cela veut dire que notre cœur n'est pas là. Mais si nous jouissons des choses de Dieu, nous n'avons pas de peine à traverser la ville sans nous laisser influencer par ce qui est autour de nous. Nous n'avons pas besoin de nous placer sous une loi. Le christianisme n'est pas une loi, il est une puissance là, divine. Et si nous sommes séparés ainsi de beaucoup de personnes que nous estimons, nous ne pouvons pas les suivre, ce n'est pas que c'est un regret, mais parce que nous obéissons à une puissance qui est divine. Et que nous perdons notre bonheur, notre lumière, notre intelligence et notre force quand nous quittons les sentiers de Dieu. C'est invariablement vrai. Combien, dans le cours d'une année, passons-nous de journées heureuses avec Dieu, du matin au soir? Ce sont là des critères quant à la puissance de notre christianisme. On peut être actif, même prêcher l'évangile, sans avoir la communion avec le Seigneur, cela. Ça vient d'arriver. Répétons encore que ce qui importe pour un chrétien, ce n'est pas d'abord ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. Être est plus important que faire. C'est l'état dans lequel il est. Et là, il ne s'agit pas de se livrer de faire de l'auto-examen, de s'examiner soi-même, pas du tout. Ça, jamais Dieu ne nous conduit à porter nos regards sur nous-mêmes, sauf pour nous juger. Bien sûr. Mais autrement, il porte nos regards, il conduit nos regards à se porter sur Christ. Christ dans la gloire. Christ dans la gloire. On nous dira encore qu'est-ce que cela veut dire. Les chrétiens, les frères et les sœurs qui ont goûté cela savent ce que cela veut dire. Ils ne peuvent pas le communiquer à d'autres, mais ils savent. C'est une affaire personnelle. Les membres d'une même famille ne sont pas, à cet égard, sont comme s'ils étaient séparés les uns des autres. Contemplant ta face découverte, la gloire du Seigneur. Ce n'est pas dit pour rien. Ce n'est pas dit pour embarrasser les chrétiens. Ce n'est pas dit pour rendre la Bible encore plus difficile à comprendre. C'est dit pour que nous appliquions à réaliser cela. Et chaque frère et chaque sœur connaît quand même, a fait quand même cette expérience. Et il peut bien dire, quand il l'a faite, que vraiment, elle en vaut la peine. Car on reçoit là, de ses relations avec le Père et en particulier avec le Seigneur, on reçoit là, bien entendu, ce qu'il ne peut pas se trouver nulle part sur la terre. Et disons un mot sur que nous trouvons au chapitre 2. Voilà, nous avons trouvé dans cet épître plus d'une fois le mot crucifié, crucifié. Il tient une bonne place dans le Nouveau Testament. Crucifié.
Je suis crucifié avec Christ, dit Paul. Était-ce une affaire qui lui était propre? Non. C'est un privilège qui est celui de tous les vrais chrétiens du monde. Même si ces chrétiens ont ignoré la chose. Nous avons été crucifiés avec Christ, cela se lie évidemment au sacrifice de Christ sur la croix, où il a porté nos péchés en son corps sur le bois, les péchés des croyants. Mais ici, c'est un pas de plus. Il ne s'agit pas du fait d'avoir porté nos péchés, mais il s'agit du fait que nous avons été crucifiés, c'est-à-dire que le Seigneur, pendant les 3 heures sombres, non seulement a porté le jugement que nos péchés méritaient, et cela pour tous les vrais croyants de tous les temps. Mais, outre cela, pendant ces mêmes souffrances qu'il a endurées, outre cela, puis le Seigneur est entré dans la mort, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons été identifiés avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Sur la croix, le vieil homme qui est en nous, l'arbre porteur des mauvais fruits, a reçu son châtiment pendant les 3 heures sombres. Et c'est Christ qui a supporté le châtiment. Et nous avons le droit, le grand privilège, maintenant, de pouvoir nous dire que notre vieil homme, qui est toujours là à nous causer des ennuis, eh bien, son cas a été réglé pour Dieu. Il est réglé pour Dieu. Vous me direz, mais pourtant, ce vieil homme, ce moi, qui me tire à droite, me pousse à gauche, pourtant, il fait encore des siennes, il n'est pas tellement mort que cela. Oui, sans doute. Mais ce qui est très intéressant et qui soulage et apporte un soulagement merveilleux, c'est que nous pouvons nous dire que l'arbre lui-même a reçu le jugement que Dieu ne pouvait pas ne pas porter sur cette mauvaise nature qui est notre nature adamique déchue. C'est une anomalie terrible pour Dieu. C'était une chose terrible, si j'en peux dire, pour Dieu, de voir sa créature Adam et Ève tout à coup avec une mauvaise nature, le mal étant entré là, le Satan ayant introduit le mal. C'est une chose que Dieu ne pouvait pas supporter. Ou il devait anéantir sur le champ sa créature, ou il devait prendre d'autres dispositions comme il l'a fait. Dieu ne peut pas supporter le mal où qu'il soit, moins chez un chrétien que chez un autre. Or, nous avons une mauvaise nature qui nous joue des tours, bien sûr, mais nous avons de l'apaisement, un apaisement réel, en pensant que cette nature a reçu son châtiment et que Dieu ne nous fait pas de reproches quant à l'existence en nous de cette vieille nature. Il nous en ferait s'il n'avait pas visité le vieil homme sur la croix. Si seuls les fruits de l'arbre avaient été visités, il resterait encore l'essentiel. Mais non, l'essentiel a été visité par le jugement de Dieu, et Dieu ne nous fait pas de reproche quant à l'existence de ce vieil homme qui est en nous, et dont nous ne serons débarrassés qu'à l'enlèvement, quand nous quitterons la terre, ou par le délogement. Mais ce vieil homme en nous ne nous donne pas une mauvaise conscience, donne pas, à condition qu'il n'agisse pas. S'il se met à agir, ce vieil homme qui a reçu sa condamnation globale, s'il se met à agir, le vieil homme, il est évident que notre conscience devient troublée, et alors qu'il faut regarder ce que Dieu dit quand une aventure pareille survient. Car Dieu ne laisse rien passer. Et vous avez fait l'expérience 4 et quelques jours de bonheur et de paix avec le Seigneur, 3 ou 4 jours, voilà que le cinquième, voilà, c'est votre âme est dans un plus mauvais état, vous n'avez pas la même paix, la même joie, le même allant, et voilà. Alors, est-ce qu'il faut se résigner à cela? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est prévu, Dieu a tout prévu. Alors, lorsque le vieil homme a porté des fruits, eh bien, nous avons à employer les moyens de Dieu pour limiter les dégâts qui ont été faits. Le premier moyen, c'est confesser à Dieu nos manquements, lui donner de nous demander de voir, car nous ne voyons pas toujours ce qui a pu nous entraîner à l'écart, lui demander de nous éclairer quant à notre infidélité, et alors, à ce moment-là, confesser entièrement la faute. À ce moment-là, les rapports avec Dieu sont rétablis. L'histoire des chrétiens est faite de cela. Et si nous n'avons pas de tels exercices, cela peut s'expliquer de la manière suivante, c'est que nous nous habituons à de l'interdit en nous, et cela peut nous mener très loin. Nous pouvons manquer une bonne partie de notre carrière lorsque nous nous habituons à de l'interdit en nous, c'est-à-dire à un manque de communion avec le Père et avec son Fils. La vie chrétienne dans ce monde, elle est faite de cela, essentiellement. Ce n'est pas ce que nous faisons qui compte d'abord. C'est ce que nous sommes, ce qui se passe dans notre âme, c'est la nature de nos relations effectives avec Dieu, avec le Père et avec le Fils, et cela par le Saint-Esprit. Ça, personne n'oserait dire qu'il n'a pas besoin du secours divin pour une seule de ses journées. Il en a besoin. Voilà. Alors l'apôtre pouvait dire, je suis crucifié avec Christ, je ne vis plus moi, Christ vit en moi. Voilà l'idéal. Mais l'apôtre avait réalisé un exercice continu à cet égard, et nous le trouvons abondamment dans les épîtres, et c'est d'autant plus encourageant qu'il ne cache pas, que l'écriture ne cache pas, que l'apôtre, que nous pourrions être un personnage tout à fait exceptionnel, vivant dans les lieux célestes d'une façon particulière, par un privilège particulier, c'était un homme ayant les mêmes passions que nous, les mêmes, c'est écrit. Et c'est lui qui parle comme nous venons de lire. Chers frères et sœurs, chères jeunesse chrétienne, que le Seigneur nous encourage à chercher la lumière de sa face et qu'il permette que nous ne soyons pas heureux quand il a des reproches à nous faire, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Qu'il ne permette pas que nous nous endurcissions à cet égard. Que de mots a entraîné la négligence à cet égard. Prenez très attention, vous prenez de grands soins quant à votre santé physique, c'est très bien, rien à redire, ou à vos affaires, mais les soins relatifs à votre âme sont encore d'une bien plus grande importance pour le temps et pour l'éternité. L'apôtre dit « Christ vit en moi ». C'est la meilleure définition d'un chrétien en bon état. Nous n'oserions pas le dire, bien sûr, mais quand nous sommes en bon état, Christ vit en nous, et nous le savons. Et qui nous le dit? Le Saint-Esprit. Nous passons ensuite à ce que nous avons vu au chapitre 5. C'est une très belle épître aussi, celle-là, très belle. Elle traite de ce sujet. On ne sait pas dans la chrétienté quels sont les milieux, les personnes qui, dans la chrétienté, les personnes chrétiennes, s'arrêtent sur ces versets-là. On ne sait pas. En tout cas, la mise au jour, la pensée divine à l'égard des sujets que nous venons rapidement de toucher, cette mise au jour, on pourrait dire dans sa plénitude, elle date du siècle dernier. Elle est liée au réveil du siècle dernier. Que d'autres l'aient réalisé avant, mais il serait difficile de penser que cela ait été développé avec la même ampleur et la même profondeur qu'au siècle dernier où justement le Seigneur voulait préparer un réveil pour son Église avant qu'il la prenne. Ne nous contentons pas de savoir que nous irons au ciel. Quelqu'un qui dirait « Moi je vais au ciel », cela me suffit. Nous pourrions lui dire « Mon cher ami, eh bien vous n'aimez pas beaucoup votre Sauveur quand vous parlez comme cela. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Car si vous l'aimez, vous aurez à cœur de suivre les instructions qu'il donne pour la vie des saints sur cette pauvre terre. Et si vous l'aimez, eh bien, le fait de ne pas goûter la morcée parce qu'il fait broncher tant de pauvres êtres humains et même des chrétiens. Non. Si la coupe, comme disait quelqu'un, si la coupe de nos cœurs est pleine, Satan n'y pourra rien mettre. Et ce n'est pas à force d'exhortation que vous assurerez d'une protection valable ceux qui vous sont chers, cette jeunesse qui vous appartient, fils ou fille. Ce n'est pas essentiellement à force d'exhortation que vous la tiendrez à l'abri, pas du tout. Si elle est convertie, la seule manière efficace de la tenir à l'abri, c'est de prier pour elle et de lui aider à ce qu'elle veille à maintenir les rapports avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur. Un jeune homme de 15 ans ou de 12 ans, si la Christ remplit son cœur, eh bien, il est à l'abri. Seulement, il faut que cela dure. Et nous savons tous que nous manquons de fidélité et de vigilance à cet égard. Mais le christianisme, c'est cela. Le témoignage des derniers jours, les assemblées auxquelles nous connaissons et auxquelles nous nous rattachons, reposent sur ces vérités fondamentales concernant l'individu, les individus. Une assemblée locale ne peut pas être fidèle si les individus ne sont pas exercés à l'égard de ces vérités individuelles fondamentales. Une assemblée ne peut pas aimer Christ si ceux qui la composent, les personnes qui la composent, ne l'aiment pas, n'ont pas le cœur tourné du côté de Christ. Alors l'attitude de fidélité et d'affection pour le chrétien est fausse, sans dire plus. Nous avons donc à nous encourager mutuellement à goûter combien le Seigneur est bon. J'ai hâte de dire, n'est-ce pas, que des considérations de ce genre, eh bien, évidemment, les jeunes chrétiens n'y entrent pas en une seule fois, et que ce n'est que peu à peu, après bien des années, des dizaines d'années dans la vie chrétienne, que l'on découvre peu à peu, et quelquefois tout à coup, que l'on découvre la grandeur la grandeur du christianisme et les vraies richesses, les vraies ressources du christianisme, les ressources qui sont à la portée de tous, et pas seulement d'apôtres, pas du tout, à la portée de tout le monde. Et on découvre tout à coup que le christianisme est quelque chose d'absolument merveilleux. Cela n'a l'air de rien. Un chrétien comme Paul, un homme pieux et qui craint Dieu, ce sera un homme qui sera toujours modeste. Il ne cherchera pas à paraître, non. Il ne cherchera pas à éblouir. Il ne cherchera pas à se hisser au même niveau que les personnes qui veulent le prestige ou la puissance, le pouvoir. Non, pas du tout. Mais cet homme-là, un Paul, qui allait souvent, donc qui a passé une bonne partie de sa vie dans des prisons, cet homme-là, en apparence le plus faible des hommes, c'était le plus fort de tous. Et le monde entier était plus faible que lui, était vaincu par lui. Nous disons bien aux jeunes, chers jeunes amis, le christianisme que Dieu vous offre, ce n'est pas les frères qui vous l'offrent, le christianisme que Dieu vous offre, il n'y a rien de pareil à cela dans le temps et dans l'éternité. Le vrai bonheur est là. Seul il donne un sens à la vie. Et quel sens? Seul il ouvre devant les croyants les horizons éternels, présentement. Nous pouvons déjà jouir de l'éternité, jouir du ciel. C'est notre chez nous. Le ciel est le home d'un chrétien. Et le home, comme on le sait, c'est toujours pour le cœur. C'est le refuge du cœur. Et si nous étions mieux abreuvés à ces sources célestes et éternelles, il est évident qu'autour de nous, on saurait bien mieux que les chrétiens sont des gens, évidemment, qui ne sont pas comme les autres, sans que ces chrétiens même pensent un seul instant à chercher à donner cette impression-là. Elle sera donnée par leur comportement même et par le fait que ces chrétiens regardent en haut. Impossible à un incrédule, quelque puissant, capable qu'il soit, ou sérieux, de regarder en haut. Impossible. Le ciel lui est fermé. L'air est fermé. Il est ouvert à la foi. Non seulement nous avons un droit par le sang de Christ, mais nous avons la liberté de chercher, d'avoir la communion avec le Seigneur, et le Seigneur peut diriger nos vies en dirigeant nos cœurs. Tenez le cœur d'un homme, vous tenez l'homme. Quand le Seigneur tient le cœur d'un homme, il tient l'homme. Tant que le cœur n'est pas engagé, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas, ces choses ont l'air passablement, comme il y a, n'ont pas de caractère concret, mais on ne va pas nous dire que seuls les faits concrets comptent, les sentiments qui lient deux êtres humains, un père et son enfant. Ces sentiments-là sont invisibles, pourtant il y a là deux cœurs qui vibrent et qui sont en action, n'est-ce pas? C'est invisible. Cela se traduit par des faits. Mais quant à l'amour lui-même, personne ne peut dire, on ne l'a jamais vu. Il le connaît par les effets que l'amour produit. Ainsi en est-il dans les relations d'un chrétien avec le Seigneur et avec le Père. Il y a là un amour d'une nature, d'un caractère tout à fait au-dessus de tous les autres amours qui sont à reconnaître bien entendu à leur place, mais c'est tout à fait différent. Et un enfant de 10 ans est à même de faire la différence entre l'amour que sa mère a pour lui, et que, au point même de l'adorer, et l'amour que Dieu versera dans son cœur. Un enfant de 10 ans n'hésitera pas à faire la différence. Sans savoir pouvoir l'expliquer, mais les effets, il les sentira. Ainsi en est-il toujours. Je vais dire un mot sur au chapitre 5. Christ nous a placés dans la liberté. Un mot sur cela. L'affranchissement et la liberté. Il faut espérer que dans les assemblées, on les traite, ces sujets, qu'il y ait des frères pour en parler. En tout cas, sans parler de les traiter, mais pour en parler. L'Écriture en parle. Puisque Romains, puisque Galates et d'autres passages. Qu'est-ce que c'est? C'est important, ça, un affranchissement. Le Seigneur nous a affranchi les siens. On nous dit, nous ne sommes pas sous la loi. Entendu. Nous ne sommes pas sous le régime de la loi. Nous n'avons pas à nous appliquer à accomplir la loi. Mais nous avons à nous appliquer à faire la volonté du Seigneur. Ça n'est pas plus facile. Pas plus facile. Et alors, Un chrétien perd sa liberté de plusieurs manières. Le moi qui est en lui peut exercer une tyrannie sur le chrétien. Cela arrive plus d'une fois. Quand un chrétien est pris par une convoitise, cela peut durer un jour, des semaines, des mois, des années, quelquefois une vie entière. C'est un esclave. Pourtant, c'est un chrétien qui donc a été dans la position de quelqu'un de libéré à l'égard de toutes les puissances qui ne sont pas la puissance de Dieu. Mais si nous, notre oreille se ferme aux appels du Seigneur, le Seigneur peut permettre que notre moi l'emporte pendant un temps, toute une partie de notre carrière, ou le monde, ou Satan lui-même, le Seigneur peut le permettre. Ah, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Le Seigneur peut permettre que ce que l'on n'a pas voulu apprendre à son école, on l'apprenne à l'école de Satan. Les cas ne sont pas rares. Regardons les choses en face, car c'est ainsi. Et plus un chrétien est sérieux, craint Dieu, l'aime, aime le Seigneur, plus il se méfiera de tout ce qui peut l'éloigner de l'objet qu'il est. Pourquoi vous n'avez jamais vu de frères et de sœurs qui, graves, sérieux, pieux, et dont avec lesquels on pouvait avoir des relations bienfaisantes, vous les avez jamais vus se laisser aller à de la légèreté dans leur marche, à un manque de vigilance. Ils, sans même le dire, ils se surveillent eux-mêmes, et plutôt, par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, ils maintiennent le moi sous un contrôle qui est nécessaire. On nous dira, mais alors la vie n'est pas très facile, c'est beau, certainement. C'est pas une vie où l'on peut se laisser aller, pas du tout. Non. Parce que Satan ne manque pas une occasion pour nuire. Quand nous ouvrons la porte, nous trouverons les louvres. Pourquoi les chrétiens heureux que vous avez pu connaître, heureux, vous avez toujours vu que c'était des chrétiens sérieux, mais pas sérieux d'une façon triste. Des chrétiens très heureux et des chrétiens très sérieux, cela va parfaitement bien ensemble. Parfaitement. Nous n'irons pas jusqu'à rappeler ce qu'on a signalé souvent, mais c'est un exemple que nous ne pouvons pas atteindre, que du Seigneur, il n'est jamais dit qu'il est riche. Il a pleuré, jamais dit qu'il est riche. Le cas, l'exemple du Seigneur est différent aussi, parce que lui, dans ce monde, n'était pas seulement venu comme un témoin, mais qu'il le fut, et qu'il l'ait été à la perfection, mais il était venu comme sauveur. Et il savait ce qui, au terme de sa carrière, au cours de laquelle il pouvait dire « Cette joie qui est mienne est accomplie. » Mais il savait ce qui l'attendait au terme de cette carrière où, dans la communion avec son Père, il goûtait une joie accomplie parce qu'il était l'homme parfaitement fidèle. Il savait ce qui l'attendait. Pensons un peu à cela. Ce sont des faits. Ce sont des faits, ce ne sont pas des interprétations. Ce sont des faits, et des faits moraux. La placer dans la liberté. La liberté, c'est ne pas être sous le joug de quelqu'un. Ou le joug de Christ, c'est au contraire la liberté. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous les chrétiens qui sont ici peuvent dire, c'est vrai, j'ai trouvé en Christ, je n'avais jamais trouvé de lui part jusque-là. Placé dans la liberté, alors nous avons à faire mourir les actions de la chair, à ne pas laisser le vieil homme faire ce qu'il veut, et quand nous sommes dépassés, eh bien, crier au Seigneur, confesser tel manquement, crier au Seigneur, et le cas échéant, faire appel à des frères et des sœurs pour qu'ils prient pour nous. Nous sommes là pour nous aider, les uns les autres. Si nous lisons Paul, nous trouvons, dans ce que dit Paul, nous trouvons que cet homme, dont nous trouvons, nous découvrons que sa vie est un triomphe. Il n'y avait pas beaucoup de bavures dans cette existence-là, pas beaucoup. Mais nous voyons, écoutons-le parler. Nous glissons sur ces choses-là, pourtant elles sont fondamentales. Écoutons-le parler. Pourtant, toujours, partout, en deux mots. Pourtant, toujours, partout, la mort. Afin que Christ soit glorifié dans notre chair mortelle. Un frère, n'importe lequel, du fait qu'il est passé à Christ, il n'est pas changé physiquement. Il a le corps qu'il avait avant. Seulement, le corps, au lieu d'être gouverné par les puissances diverses, les tendances diverses, eh bien, le même corps, les mêmes facultés, le même esprit, n'est-ce pas, et les mêmes facultés, eh bien, peuvent être employées maintenant, mises maintenant au service du maître que l'on sert. Et cela n'empêche pas du tout d'accomplir les devoirs de la vie courante. Nous ouvrons une parenthèse pour dire que l'accomplissement des devoirs de la vie courante en toute piété, en toute honnêteté, intégrité, respect de la moralité, c'est fondamental pour un chrétien, bien entendu. Bien entendu. Cela va de soi. Mais alors, tandis que l'homme du monde ou le chrétien sérieux pourra faire appel à d'autres moyens pour maintenir un état d'intégrité sérieux, le chrétien a des ressources pour cela. Il a Christ pour lui aider. J'ai placé dans la liberté. Alors ne nous mettons pas sous un joug. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, bien entendu. La parole de Dieu fait autorité, mais ça, ce n'est pas un joug pénible pour un chrétien, au contraire. Mais il y aurait trop de choses à dire, nous ne pouvons pas davantage nous arrêter. Et nous retrouvons ici aussi ce qu'il y a dans l'Épître aux Romains, et il est à souhaiter que dans toutes les assemblées, il y ait des frères pour rappeler continuellement des vérités de ce genre. Et ne pas laisser croire que le christianisme vainqueur, le christianisme selon la pensée du Seigneur, c'est une fidélité dans des habitudes chrétiennes. Non, pas du tout cela. Nous pouvons refaire fréquemment, réaliser fréquemment et d'une façon habituelle les activités divines, mais intérieurement, ce n'est pas la routine qui est dans nos cœurs, pas du tout. Nous pouvons faire notre chemin d'une façon très uniforme en apparence, avec un renouvellement intérieur continu. Voilà. On ne s'ennuie pas dans cet état-là. Je termine à peu près au verset 10 du chapitre 5, alors nous trouvons cela, je dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. L'esprit, disons, c'est le fait caractéristique et unique de la période chrétienne. Le Saint-Esprit est dans le croyant. Il ne quitte jamais. Comment expliquer cela? Bien entendu, on ne peut rien. Et il habite dans l'Église tout entière. L'Église, la maison de Dieu, est une habitation de Dieu par l'Esprit. La fin du chapitre 2 des Éphésiens. Mais il habite dans le croyant. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est écrit et c'est vrai. Ouais. Alors par conséquent, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, jamais il ne poussera nos membres, nos facultés à désobéir ou à mal faire. Jamais, pas du tout. Alors, si le Saint-Esprit agit en nous, Nous marchons par le Saint-Esprit et nous sommes dans la lumière de Dieu, n'est-ce pas? Et je voulais encore un mot au verset 17 du chapitre 5. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ces choses sont opposées l'une à l'autre. Voilà. Qu'est-ce que c'est? De qui cela est-il dit? D'un chrétien. Voilà, le chrétien, il a son corps, il a ses facultés liées à ce corps. Et ensuite, alors au point de vue chrétien, parle d'un chrétien, il y a en lui cette chair, n'est-ce pas? Le vieil homme qui est en nous peut, cette puissance de mal qui est en nous peut employer nos facultés à faire le mal. Jamais le vieil homme ne nous conduira à employer nos facultés pour faire le bien. Le vieil homme ne le fait pas. Toutes les fois qu'il agit, le résultat c'est que nous faisons du mal. Voilà, le vieil homme est là, c'est la chair, c'est cette nature là on peut dire. Et nous avons l'esprit en même temps chez le chrétien. Et il est dit, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, pour dire qu'il y a là, c'est un fait, un chrétien est une personne, étrange, très étrange, beaucoup plus que les hommes ne le supposent. C'est un homme, donc, en qui Dieu habite par son esprit. Oui. Et on dit qui Dieu habite par son esprit. Et en même temps, c'est un homme qui a les mêmes passions que les autres. Les mêmes. Chez les inconvertis, les passions ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Mais peu importe. Les passions, qu'est-ce qu'une passion? C'est l'oubli de Dieu et du devoir. Eh bien, nous disons donc, la chair convoite contre l'esprit, l'esprit contre la... Voilà, dans le chrétien, cela se produit autrement dit. Voilà un chrétien qui a marché pendant, mettons, 80 ans de vie chrétienne. Eh bien, pendant ces 80 ans, en lui, on peut dire, cohabiter la chair et l'esprit. Disons ensemble. La présence du Saint-Esprit n'annihile pas la chair, en tout cas ne la détruit pas. Mais la présence du Saint-Esprit, eh bien, est près de la chair et peut l'empêcher de nuire. Mais autrement, la chair n'est pas changée. Dans la vie d'un chrétien, par la présence du Saint-Esprit dans le même chrétien. La chair est incorrigible. En sens inverse aussi, le Saint-Esprit reste dans sa gloire, même toute sa gloire, même si on osait parler ainsi, en contact avec la chair qui est dans le chrétien, dans lequel le Saint-Esprit habite en même temps. Qu'on voit qu'il y a opposition, ils ne sont jamais d'accord, jamais la chair et l'esprit ne sont d'accord, il y a convoi contre l'esprit, l'un contre l'autre, il y a opposition permanente. Mais les débats sont grandement diminués s'il y a de la piété, qu'on laisse le Saint-Esprit agir, alors la chair elle est tenue à sa place. À la moindre défaillance, elle se réveille. Et puis Satan intervient, car encore, n'oublions pas que Satan est là. Et Dieu le permet. Et que des fois Satan a aggravé des écarts. Le Seigneur le permettant, quand on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme semait, il moissonnera. Nous voyons aussi, je termine en disant un mot sur le verset 19 du chapitre 6, les œuvres de la chair, et puis ensuite au verset 22, le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair. Écoutez, nous avons là une liste d'œuvres de la chair. Eh bien, nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour voir les effets étalés presque au grand jour dans tout le monde du chrétien. Nous trouvons d'ailleurs cela ailleurs. C'est évidemment effrayant et indique que la fin est très proche. Nous ne nous en plaindrons pas. Voilà les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Voilà, nous terminons en relisant cela, l'amour, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre telle chose, il n'y a pas de loi. En voilà des vertus. Et un seul mot sur l'amour, comme nous le disions, je crois, un de ces jours, l'amour, c'est celui de Dieu. Ce n'est pas l'amour d'une mère pour son, qui est chrétienne, pour son enfant qui est chrétien, ou d'un époux et, d'une, et, de son, et de sa femme. Ce n'est pas cet amour-là qui est en question. Tout l'amour qui est relatif à, qui est lié à la nature humaine, les chutes, est marqué par l'égoïsme. Ça ne peut pas être autrement, c'est absolument impossible. De trouver l'absence d'égoïsme, bien qu'il y ait du dévouement et de l'abnégation dans bien des actes, mais tout au fond, c'est impossible. Mais alors, quand nous avons l'amour, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13 est très intéressant à cet égard. Ce que l'amour, selon Dieu, fait et ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il fait, il ne fait pas. C'est l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Comme disait un chrétien aussi, un bon frère, donnez-moi un homme qui soit rempli de Christ et de l'amour de Christ. Eh bien, je vous montrerai un homme qui est disposé à tous les dévouements, à tous les sacrifices. Sans cela, il est un homme heureux, parfaitement heureux. C'est vrai. Dans la mesure faible où nous goûtons cela, nous pouvons dire c'est parfaitement vrai. L'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, c'est vrai. Ça ne se trouve nulle part. Il y a des tempéraments qui sont tempéraments heureux, qui ont une manifestation de joie et une nature, comme on dit, heureuse, mais la nature, Dieu l'a entièrement jugé à la croix, et il n'y a personne qui puisse faire le bien comme c'est écrit. Et une nature humaine, n'est-ce pas, pleine de qualités, une personne pleine de qualités, il ne faut pas aller trop loin dans la mise à l'épreuve pour découvrir que ses qualités extérieures recouvrent un intérieur qui est semblable à celui des méchants, des plus méchants. Nous sommes bien obligés de le reconnaître. Tandis que dans l'amour divin, il n'y a pas de limite, pas de fond. Il était très rare pour Paul, chez Paul, c'est très rare de le faire sortir de la puissance de l'amour de Dieu en lui. Très rare. Vous le mettiez en prison, au lieu de se plaindre, de protester, crier à l'injustice, il chantait. Voilà l'amour. Au lieu d'attendre que les autres lui rendent ce qu'il a fait, il n'attendait rien du tout. Il était disposé à continuer à les servir. Si l'amour de Dieu remplit notre cœur, au lieu d'attendre quelque chose d'un frère auquel nous avons rendu service, nous serons prêts à lui en rendre un second et c'est tout. Sans jamais parler du premier. Voilà l'amour, celui-là. L'amour apporte à l'âme le contentement dont l'apôtre parle à Timothée. La piété avec le contentement est un grand gain. Les vrais riches, les voilà.